I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 530 du podcast Jeune Actuel. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouveau débrief des plus grosses affiches de la semaine. Et ça se passe encore une fois avec Lucas Vola qui arrive à peu près à la période Tom Brady 2005-6, je crois, au niveau des cheveux là.
J'allais dire, tu parles capillairement. Ouais, ça pousse. Heureusement ouais. Que c'est un podcast et pas une émission où on peut me voir.
En effet, je sais plus c'est en quelle année, tu sais qu'il avait les cheveux un peu, non peut-être 2012, où il avait vraiment, tu sais, la belle crinière, quoi. Là ça commence à envoyer sévère. Et Lucas qui contrairement à Tom Brady, c'est peut-être de la diffamation, je sais pas, j'allais dire qui contrairement à Tom Brady n'a pas besoin d'intervention artificielle pour garder la jeunesse.
Ah, on sait pas,
visage.
Peut-être que je le cache bien.
Ah, peut-être. Bon, non. Très bien. Bon, Lucas, ça va, tout va bien?
Ça va bien, tout va très bien. J'ai hâte. On va parler de trois matchs sympas. Alors, je dis pas que c'est pas comme ça toutes les semaines, mais c'est vrai que là, pour le coup, on a trois matchs plutôt qui ont été agréables à suivre.
Et puis, on a varié les plaisirs quand même au niveau des équipes.
Oui, surtout. Et puis, c'est vrai qu'il y a des semaines où on parlait un petit peu d'équipes qui allaient moins bien et c'était surprenant. Mais forcément, du coup, on parlait de matchs qui étaient un peu moins sympas. Là, c'est que des équipes qui vont bien ou presque. Donc, c'était plutôt pas mal à regarder.
Je dis ça parce que je me suis fait la remarque en préparant. Je me suis dit quand même, la plupart du temps, même si évidemment il y a des équipes qui reviennent, on fait quand même attention de changer un petit peu au milieu de la saison, de revenir sur certaines équipes, de varier un peu les thèmes, etc. Et je me disais, des fois, quand tu regardes en fait certains, les sites qui parlent de foot ou quoi que ce soit, souvent c'est quand même que les mêmes équipes de haut de tableau dont on parle en fait. Et si on était un peu bourrin, on pourrait titrer sur les Rams, les Buccaneers, les Packers et les Chiefs et les Bills toutes les semaines, quoi.
Ouais, mais c'est sympa de ta part, c'est parce que tu sais que je fais que le lundi, donc tu veux me faire parler un peu d'autres équipes que toujours les mêmes.
En plus, non, mais c'est vrai que même pour nous, je veux dire, on se dit, si on parlait de ça tout le temps, enfin, faut bien tourner un petit peu. Là, on arrive en huitième semaine, on arrive dans le cœur de la saison, là. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir des nouvelles histoires aussi qui émergent. Et en tête de ces histoires, les Vikings 36, les Cardinals 34, pardon, et les Cardinals 26. Les Vikings qui ont désormais le deuxième meilleur bilan de la ligue à égalité avec les Bills, juste derrière les Eagles. On va pas se mentir, c'est dur de savoir quoi faire de cette équipe. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en avait pas parlé avant et qu'on les a laissés tranquillement monter jusqu'à 6-1. Parce qu'ils ont gagné, mais ils se sont aussi pas mal compliqué la tâche. Dans les matchs d'avant, mais aussi dans ce match-là. Il a fallu que leur défense réussisse de gros stops en fin de match pour maintenir leur avantage. Za'Darius Smith a été un des héros du soir avec 3 sacks. Leur kicker a raté un extra point qui leur aurait donné 2 possessions d'avance, donc ça a laissé un petit peu Arizona dans le match. Ils ont perdu un fumble alors qu'ils avaient un ballon pour prendre le large. Donc c'est toujours un peu comme ça avec Minnesota. C'est bien, et puis ça pourrait être mieux, c'est bien, et puis ça pourrait être mieux. Est-ce que c'est une bonne équipe, Lucas ? Est-ce que tu as confiance en cette équipe de Minnesota maintenant avec ce bilan de 6-1 ?
Oula, il y a deux questions. Est-ce que c'est une bonne équipe ? Oui. Est-ce que j'ai confiance ? Je sais pas. Je sais pas, mais oui, c'est une bonne équipe. Intrinsèquement, déjà, c'est une équipe qui est pétrie de talent des deux côtés du terrain. Tu as cité quelques noms, forcément Justin Jefferson, Dalvin Cook. Donc forcément, voilà, même en attaque, il y a de très bons joueurs. Donc c'est une très bonne équipe même. C'est même une très bonne équipe. Est-ce qu'on a confiance ? Je pense pas tout à fait, même si... Forcément, ça fait, tu l'as dit, 6 victoires de suite. Je crois qu'ils sont à 6 victoires et 5 victoires de suite, quelque chose comme ça. Donc, ça commence à être une constante. On le dit, on le répète chaque semaine. Quand une équipe, elle gagne un petit peu à l'arraché, on se dit, c'est pas forcément de la chance, mais c'est quelque chose qui a bien tourné en sa faveur sur ce match-là ou sur les deux matchs-là. Quand ça commence à faire 6, 7, 8 semaines, comme on le voit là, ça devient plus forcément de la chance ou de la réussite, mais ça devient quelque chose qu'ils sont capables de faire et de bien faire. Alors oui, ils se font peur, mais j'ai envie de dire, imaginons qu'ils fassent un match complet. Imaginons qu'ils soient bons sur tout. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser avec eux, du coup. Parce que franchement, quand ils sont bons, ils sont très bons. Alors c'est vrai qu'ils ont des trous d'air. L'avantage par rapport aux années précédentes, c'est que ces trous d'air ne les plombent pas. Là où avant, ils étaient plombés ou ils étaient plombés par les fins de match, ils arrivent à réussir, notamment avec un bon play calling. On en parlera peut-être, mais voilà. Est-ce que j'ai confiance ? Pas encore tout à fait quand la montagne va s'élever, comme on dit, et que l'air va se rarifier et que ça va être de plus en plus dur. Mais c'est une très bonne équipe, oui.
Après, on n'est pas évidemment total. On vit pas l'instant totalement en étant totalement imperméable par rapport à nos impressions du passé. Je dis ça pourquoi ? Parce que depuis le début de la saison, il y a aussi ce truc de dire ah bah les Vikings, c'est toujours les Vikings. On est habitué à ces dernières années où il y avait des hauts et des bas. Des fois ils étaient brillants, des fois ils l'étaient moins. Et donc c'est dur de se couper de ce sentiment-là des années précédentes. Mais au bout de 5 victoires de suite et de 6 au total, comme tu le disais. T'es quand même obligé de dire un peu la même chose qu'on a dit pour les Giants, je trouve, les dernières semaines. C'était de dire, bah, au début, on disait oui, ils gagnent au raccro, etc. Mais au bout d'un moment, comme tu le dis, quand ça fait 5 fois de suite, bon, bah, il faut quand même dire qu'il y a un nouveau coach, Kevin O'Connell, qu'il trouve des moyens de gagner et qu'en effet, par le passé, ils auraient trouvé le moyen de gagner puis de perdre, de gagner puis de perdre. Et là, ils ne font que gagner. Donc, on peut quand même leur rendre ça. Et après, c'est ce que tu disais. Oui, il y a aussi du changement. Quel changement, toi, tu vois dans les choix de jeu ?
Les choix de jeu, bah, Kevin O'Connell, il était là pour ça. On le savait que ça allait être offensivement, qu'il était censé apporter quelque chose. Là où Mike Zimmer était plutôt sur du défensif. On avait peur d'ailleurs que la défense en pâtisse un petit peu. C'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, Kevin O'Connell, il arrive et il montre que sur ce côté-là du ballon, il est très bon. Justin Jefferson a beaucoup de louanges envers lui. Et surtout, moi, je vois des très bonnes gestions, notamment dans la red zone. Dans les 20 derniers yards adverses, ils font plusieurs voyages et très régulièrement. Alors, j'ai pas la statistique en tête, mais je sais qu'à un moment, dans le match, ils étaient à 5 voyages dans la red zone, 5 passages dans la red zone pour 4 touchdowns. Quand on le sait, quand on voit d'autres équipes qui ont beaucoup de difficultés dans ces 20 derniers yards, et on sait que c'est un endroit qui est très compliqué, mais qui est un endroit qui est crucial, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la zone rouge, des deux côtés du terrain. Quand on arrive à être bon là, déjà, il y a une grosse partie de l'attaque qui est faite. Alors, bien sûr, il faut y arriver, mais quand on a Adam Thielen, quand on a Kirk Cousins qui est, pour le coup, qui est bon, quand on a un bon jeu au sol, on y arrive relativement souvent dans ces 20 derniers yards entre guillemets, je dis pas que c'est facile bien entendu, mais c'est là que le cœur du jeu se fait et j'ai trouvé les appels de jeu très bons. Il y a un touchdown de Mattison, je crois que c'est pas Dalvin Cook mais c'est le running back remplaçant qui est très bon sur un draw. J'ai trouvé ça très très intelligemment joué. Il manquerait peut-être un peu plus de présence de Jefferson dans cette red zone justement. Est-ce que c'est vraiment le receveur adéquat pour ce genre de situation? Pas forcément, j'ai pas l'impression. Il peut le devenir, il est encore jeune. Il manque peut-être ça pour que ça devienne une attaque quasiment inarrêtable dans la red zone, mais c'est déjà très bien.
Je me permets même de te reprendre, ils étaient à 5 sur 5 hein, dans la red zone officiellement, voilà. Sur ce match. Bon, ouais. 6 sur 13 sur les 3e tentatives aussi, donc ça c'est quand même du solide. Et ça prouve qu'en effet, ils sont très bien gérés. Ce qu'on va attendre maintenant, comme on le disait un petit peu, c'est un match où peut-être ils, pas domine, mais maîtrise, j'ai envie de dire, de bout en bout. Après, encore une fois, hein, il faut leur remettre ça. La défense, par exemple, est opportuniste. Il y a 3 ballons perdus par les Cardinals. Ils capitalisent là-dessus. Donc, c'est une bonne équipe. On a du mal à le dire. Moi, je te dis, j'ai du mal à m'enthousiasmer parce que voilà, mais comme tu dis, en fait, ils sont solides, ils ont un effectif qui est complet, ils sont bien plus complets puisque la mesure première en NFL c'est la division, ils ont l'effectif le plus complet de leur division devant Green Bay largement.
Oui, quand on prend la division, ils ont le meilleur effectif. Après, on peut pas avoir passé plusieurs années en disant oui, c'est une équipe qui a pas qui reflète pas forcément leur bilan. Ouais, mais le bilan, c'est le bilan NFL et on peut pas aller contre. Certes, ils sont pas mauvais, mais ils perdent. Bon, c'était dans un sens et on avait probablement raison de dire ça. Maintenant, c'est dans l'autre sens. Comme tu le dis, l'équipe, elle est pas foncièrement différente de ce qu'on a vu l'année dernière ou des saisons précédentes. La différence, c'est que ça gagne des matchs. C'est pas beaucoup de différence, mais c'est énorme en même temps. Donc bon, après, et puis on prend de la confiance. Et comme tu l'as dit, dans une division qui devrait quand même leur revenir, il y a des chances que ça aille loin ou que ça aille en play-off déjà. Une fois qu'ils sont en play-off, s'ils ont de la confiance, ils peuvent battre n'importe qui. C'est une équipe qui peut battre n'importe qui sur un match. Franchement, en NFC, ça peut battre n'importe qui.
C'est marrant parce que c'est exactement vers là que je voulais t'emmener en conclusion. C'était vraiment ma dernière question. C'était est-ce que c'est vraiment l'équipe typique que t'as pas envie de jouer parce que tu sais que sur une soirée, bah s'ils prennent feu, ouais, en effet, ils tapent tout le monde, quoi.
Ah oui, clairement, j'avais pas réfléchi avant, mais là, en y parlant, en pensant en play-off qui sont encore très loin, je vois une équipe comme ça. Et puis par contre, je vois aussi une équipe qui potentiellement va avoir un très bon bilan, qui potentiellement va finir première de sa division, qui potentiellement va recevoir un match de wild card et qui pourrait se faire éliminer, voire même, je peux aller très loin, on est dans le football fiction, mais voire même avoir, ah non, il y a plus qu'un bye week maintenant en play-off. Je pensais qu'il y avait deux équipes encore qui étaient, je les imaginais bien se faire avoir à la Tennessee comme il y a quelques saisons, il y a deux saisons je crois, ou qu'ils avaient fini premier, ou peut-être l'année dernière, ils avaient fini premier, ils s'étaient fait éliminer dès leur entrée en course alors que c'était en divisional round. Je vais un peu trop loin, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est une équipe qui peut battre n'importe qui peut se faire battre par n'importe qui. Pour l'instant, ils ne sont pas battus beaucoup.
Ils ont un gros match contre les Bills qui arrive dans deux semaines. Après, le reste du calendrier est plutôt prenable en plus pour avoir un gros bilan, sachant qu'on n'en est pas là, hein, mais sachant que Philadelphie a aussi des gros matchs contre les Cowboys, etc. Là, eux, ils ont, en dehors des Bills, ils ont Commanders, Cowboys, Patriots, Jets, Lions, Colts, Giants, Packers, Bears. Sachant l'état des Packers cette année, c'est pas délirant de les imaginer dans la course à la première place si Philadelphie trébuche une ou deux fois. Ça peut être intéressant. Bon, en tout cas, très très bonne équipe des Vikings qui s'établit, on l'a dit, très haut dans la NFC cette saison et qui compte maintenant quand même pas mal d'avance en plus hein, sur les Packers en tête de la NFC Nord, puisque les Packers sont à 3 victoires alors que Minnesota en est à 6, donc ça commence à faire vraiment un gros fossé. Les Cardinals étaient quand même en face, il faut parler d'eux aussi. J'ai envie de te dire, ils vont mieux offensivement parce que DeAndre Hopkins est là, ça se résume à ça, parce que Hopkins, c'est 12 réceptions pour 159 yards et un touchdown. Donc forcément, bah oui, quand t'as ça, ça va mieux, quoi.
Oui, clairement, l'équipe a pas changé dans sa physionomie. Simplement, on a rajouté un joueur top, mettez top 5, top 3, top 1, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un joueur à sa position, bien entendu. C'est un joueur incroyable, on l'a vu. Il a eu un match pour revenir un petit peu. On l'avait senti monter en puissance. Là, il est complètement en puissance. T'as donné les statistiques. Il y a ce touchdown que j'encourage tout le monde à aller voir d'une main de la main gauche qui est incroyable, que vous avez certainement vu si vous êtes sur les réseaux. Donc, c'est vrai que ça aide cette attaque à monter d'un cran. Maintenant, elle change pas foncièrement, il y a toujours les mêmes défauts, donc c'est vrai que c'est une équipe qui peut être spectaculaire avec ce joueur-là, mais bon, on le voit, ils prennent 34 points, c'est compliqué. Alors ils ont un peu de cœur, Kyler Murray tente des choses, mais c'est encore limité.
Ouais, comme tu dis, il y a toujours les problèmes de la ligne. Il y a 4 sacks sur Murray. La ligne offensive était privée de beaucoup de monde, mais au bout d'un moment, t'es aussi censé trouver des solutions de coaching. Il n'y a pas de jeu au sol, ils perdent 3 ballons. Donc oui, en fait, la différence, c'est DeAndre Hopkins. Là, leur meilleur coureur sur le match, c'est Kyler Murray. Donc, bon. Ouais. Rondell Moore hein, aussi, d'ailleurs, qui a un bel apport. Est-ce qu'il bénéficie peut-être de l'air qu'apporte un peu DeAndre Hopkins? Dans les airs, quand il a un peu de temps, Kyler Murray, il trouve des gens. Mais le problème, c'est ça, c'est que du temps, il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai dit, il prend 4 sacs, ça force aussi 2 interceptions. Je vois pas comment ils peuvent... Je vois pas comment ils peuvent évoluer sur cette base-là. Je veux dire, je vois pas ce qui peut aller mieux. Je disais la ligne offensive, mais ils sont en difficulté sur la ligne défensive aussi. Ils prennent 6 yards par course, donc à partir du moment où ils sont dominés comme ça dans les tranchées, je vois pas comment ça peut s'améliorer rapidement en fait cette saison.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as parlé beaucoup de l'attaque et à raison, mais il y a cette défense là aussi qui prend, je l'ai dit, 34 points, qui prend plus de 100 yards au sol par Dalvin Cook, ce qui les empêche de revenir à des moments clés. Comme tu l'as dit, les lignes, c'est vraiment un gros point noir des deux côtés du terrain. 1. À partir de là, ça devient compliqué, malgré le talent que cette équipe-là peut avoir des deux côtés, ça devient très, très difficile.
Seahawks 27, Giants 13, match très serré jusqu'au début du dernier quart. Il y avait 13-13 dans le dernier quart-temps. Puis Seattle a dynamité le match avec un long touchdown de Tyler Lockett, avec un touchdown de Kenneth Walker, et ça fait 27-13. Un petit match offensif pour les deux équipes, mais Seattle a les playmakers qui ont fait la différence et un meilleur quarterback. Est-ce que je peux résumer ça à ça ? Playmaker plus quarterback était côté Seattle.
Ouais, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé, même si non, même pas. Même si, mais ça a été un bon match. Je parlais des bons matchs tout à l'heure en introduction. Il y avait certes pas beaucoup de points. Certes, c'était deux équipes qui sur le papier gagnaient, mais est-ce qu'on était encore convaincu ? J'ai trouvé que c'était un très bon match. Il y avait de la défense, il y avait de l'attaque qui essayait d'être meilleure. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Regarder ce match-là. Maintenant, en effet, sur ce match et en général, Geno Smith est meilleur que Daniel Jones. Ça s'est vu. J'ai envie de dire que Pete Carroll a été meilleur aussi que Brian Daboll, qu'il lui a fait une petite leçon au rookie et ça aussi, ça joue. À partir de là, en effet, Seattle a fait la différence avec des joueurs en plus, notamment dans les airs, comme Tyler Lockett, DK Metcalf. C'est sûr que ça fait une grosse différence et ça fait l'écart qu'on a vu.
Geno Smith, 23 sur 34, 212 yards, 2 touchdowns, qui continue sa belle saison. Il domine pas, mais il est suffisamment bon. Il trouve, on l'a dit, Lockett, Metcalf, ça fait un touchdown. Kenneth Walker qui trouve une brèche, ça fait un touchdown. Et puis quand même leur défense, qui continue de progresser. 5 sacks, 2 fumbles recouverts. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Là, ils ont bien coupé les Giants de leur force. Tu parlais de coaching. Bah, ils ont un jeu au sol, les Giants, qui est réduit à 2,8 yards par course. Et là, derrière, c'est très compliqué.
Oui, alors c'est sûr que quand on voit qu'ils ont encaissé 13 points face aux Giants, ça va pas paraître comme une défense incroyable. On le sait, les Giants marquent pas énormément de points. C'est pas grâce à l'attaque qu'ils gagnent leur match. Donc là, les réduire à 13 points, c'est pas un exploit. Mais quand on regarde un petit peu ce match-là, comme tu l'as dit, ils ont réduit la force principale de l'équipe adverse, et ce qui est déjà très fort parce que il y a pas beaucoup de gens qui avaient réussi à réduire le jeu au sol des Giants. Et ils ont rendu la vie très compliquée à notamment Saquon Barkley. T'as donné la statistique. Il y a eu 5 sacs en plus sur Daniel Jones. Donc c'est vrai que notamment cette ligne défensive, elle a été très bonne et elle a rendu la vie très compliquée, ce qui a permis aux Seahawks d'être devant. Alors oui, il y a ce touchdown parce qu'il y a un fumble très très loin dans le terrain, en tout cas très près de leur propre zone d'en-but. Et donc du coup, ça donne presque 7 points faciles entre guillemets, il y a aucun point facile, mais cette défense là, elle a été très bonne quasiment du début à la fin de ce match.
Est-ce que les Giants, du coup, découvrent leurs limites quand Barkley est contenu ? Daniel Jones a 4 sur 14 sur les passes de plus de 10 yards dans les airs. Voilà, on sait ce qu'on a avec Daniel Jones. Il fait illusion par moment, ça gagne. Il y a des fois des fiches de stats un peu flatteuses, j'ai envie de dire. Mais on est d'accord qu'on voit, dès que Barkley est limité, que Jones, c'est une solution de transition.
Oui, bah c'est sûr que c'est en effet pas la solution, la première solution dans cette attaque-là. Et quand en effet l'option numéro 1, qui est le jeu au sol, est éliminée, ça devient compliqué. Maintenant, j'ai un petit peu été interrogé parce que Saquon Barkley court sa première course assez tard. Je crois que c'est la deuxième série offensive, voire même la troisième. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, on aurait pu imaginer qu'il allait courir rapidement. Et puis après, la différence, elle se fait là où dans les moments très importants où la pièce basculait du côté des Giants parce qu'il faisait les bons choix et il faisait les bons jeux. Là, il y a 20-13, si je me trompe pas, il y a un punt que les Giants récupèrent et perdent sur un fumble, le deuxième de ce match-là, alors qu'ils avaient l'opportunité éventuellement de faire un drive et d'égaliser. On était encore loin, mais là ça les tue, ça les empêche de revenir définitivement, et c'est des pertes de balles que faisaient pas les Giants dans des moments comme ça, et voire même c'est des pertes de balles que les Giants provoquaient. Là, ils ont vu la différence. Pour moi, c'est ça la différence entre une défaite et une victoire pour cette équipe-là.
Tu parlais des passes. En effet, la première course de Saquon Barkley, c'est sur la première action de leur troisième offensive.
Ouais, voilà, c'est bien ce que...
Et on parlait de la défense de Seattle. Les trois premiers drives des Giants, c'est des three and out. Il n'y a aucun first down sur les trois premiers drives pour New York. Donc ça montre aussi quand même la qualité de la prestation défensive de Seattle sur ce moment-là.
Et puis on parlait de coach. On parle beaucoup de Brian Daboll comme coach de l'année. Il y a Pete Carroll qui commence à avoir un petit...
Tu fais déjà un petit teaser de l'émission de preview de la semaine 9.
Autant pour moi.
Non, mais t'as raison. On va faire les trophées de la semaine dans l'émission preview de cette semaine. Et en effet, au niveau des coachs, je pense que Brian Daboll aurait été l'ultra favori au moment où on avant ce match, tu vois, on aurait fait l'émission des trophées de mi-saison où on aurait dit coach de l'année Brian Daboll. Là, avec des Seahawks à 5-3, des Giants à 6-2 et Pete Carroll qui vient de battre Brian Daboll, mais il y aura peut-être un débat dans l'émission.
Bah, pour être honnête, c'est vrai que Brian Daboll ça apparaissait comme l'évidence avant ce match-là. Pete Carroll, j'avoue ne jamais trop y avoir pensé, puis c'est en lisant des articles ce matin que ça commence à en parler, je me disais mais c'est vrai que c'est pas tout à fait illogique. En fait, il est là depuis tellement longtemps, il a déjà eu tellement de succès, c'est un peu le syndrome Bill Belichick, on se dit bon, ouais, il est là, il fait, c'est normal que son équipe gagne, mais en fait quand on y repense, on se dit il est en train de faire du très bon travail.
Je sais même pas s'il a déjà été coach de l'année, Pete Carroll, en fait. C'est pas une stat que j'ai préparée.
Eh bien, je sais pas non plus, mais je vais continuer à parler pour te faire gagner du temps.
C'est très gentil, c'est très gentil. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand on enregistrait le podcast, j'avais pas d'ordinateur devant les yeux. Maintenant, en effet, je peux. Non, il a pas été élu coach de l'année, Pete Carroll.
Alors, on en est loin, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Est-ce que d'ailleurs, à ce niveau-là, pour finir sur ces deux équipes, est-ce qu'on peut quand même dire, même si le bilan est inférieur aujourd'hui, puisque 5-3 pour Seattle, 6-2 pour les Giants, Seattle semble quand même avoir un effectif plus complet et plus équilibré.
De plus en plus, en tout cas. En tout cas, de plus en plus. C'est vrai que, de manière un petit peu caricaturale, en début de saison, les Giants, c'était la défense. Les Seahawks, c'était l'attaque. Les Seahawks sont de plus en plus une équipe complète, avec une défense, on l'a dit, qui s'améliore. Il faudra les voir un petit peu tester face à d'autres grosses équipes. Mais c'est vrai que cette équipe-là, elle est de plus en plus complète. Et c'est vrai que, quand on les prend l'une face à l'autre, comme c'était le cas dimanche, j'ai l'impression que Seattle est meilleur. Et c'est facile pour moi de dire ça une fois que le match est passé.
En semaine 10, on parlera des flops du début de saison. Bon, le divorce entre Russell Wilson et Pete Carroll commence à tourner à l'avantage de quelqu'un. Il y en a un qui a plus de chances d'être dans les flops que l'autre. Mais en tout cas, c'est deux belles surprises, hein, ces équipes. Donc ça nous faisait plaisir aussi d'en parler dans ce débrief. Et donc Seattle qui est leader de la NFC West. Ça aussi, on a deux leaders improbables. Hein. Demain, on parlera d'Atlanta qui est leader de la NFC Sud. Là, on a Seattle et Atlanta, leader de division après 8 semaines. Tu disais, c'est plus facile de parler après les matchs. Clairement, dans les émissions de preview.
Ah oui, non, c'est.
Je suis pas sûr qu'on aurait parié aucun des deux. Hein.
Je pense qu'il faut vraiment pas ressortir la pastille. Je pense qu'il faut l'enterrer, la pastille Seahawks. Il faut l'enterrer à tout jamais ou la sortir pour rigoler. Mais c'est vrai
que. Ouais, je pense qu'on pourra mettre, tu sais, on met les émissions rétro le samedi maintenant, je pense que en fait, dès la fin de cette saison, on pourra mettre en rétro la preview des Seahawks de cette année.
Ouais. Hein. L'exemple même de nous.
Ah ouais, moi je vais pas me cacher, je pense que ce soit Seattle comme Atlanta, dans les previews, je dois les annoncer comme prétendants au premier choix de la draft, hein. Clair et net.
Je vous dois pas être loin de ça.
Les Rams 14, 49ers 31, les Rams ont démarré correctement, ils menaient 7-0 après le premier quart, 14-10 à la pause pour eux, et puis plus rien en seconde mi-temps, les Niners ont marqué 3 fois après la pause pour l'emporter 31-14. L'homme du match c'est forcément Christian McCaffrey, 11e joueur avec un touchdown à la passe, au sol et à la réception, la 3e fois depuis la fusion NFL-AFL et la première fois depuis 2005, tu sais qui ?
Je l'ai lu, la Damian Tomlinson.
LaDainian Tomlinson, le grand LaDainian Tomlinson. Est-ce que Kyle Shanahan a trouvé l'outil idéal, le joueur de ses rêves ?
Ah, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mmh. C'est vrai que là, on parlait de mariage. On n'est pas loin d'un mariage parfait pour l'instant. Alors après, il suffit que McCaffrey se blesse la semaine prochaine pour que tout soit réduit à néant. Mais
ce qui n'est pas exclu à San Francisco.
Ce qui n'est pas
clairement.
Exclu à San Francisco et de la part de Christian McCaffrey aussi. Oui. C'est vrai que là, pour le coup, les chances ne sont pas trop de leur côté. Ceci étant dit, en effet, il y a eu un petit match la semaine dernière, un peu de reprise entre guillemets d'acclimatation. C'était difficile d'être performant. Là, c'est vrai que on voit tout le potentiel de Christian McCaffrey dans cette attaque de Kyle Shanahan. Alors oui, il y a cette passe-là. Bon, il ne va certainement pas lancer des passes de touchdown de 40 yards toutes les semaines. Donc, c'est presque ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on parle de tout le reste. Je crois que si on enlève cette passe-là, il y a 150 yards au moins derrière la ligne de scrimmage, que ce soit à la réception ou à la course. C'est quelque
94...
chose...
Pardon, je te coupe. 94 au sol, 55 dans les airs, un touchdown de chaque.
Voilà, donc on est quasiment à 150, je crois que si mes calculs sont bons. Et voilà, ça démontre que c'est un joueur déjà formidable quand il est en forme. Je pense que pas grand monde n'en doutait. Et en effet, dans cette attaque-là, qui est hyper explosive, qui sait mettre ses playmakers en valeur, ça rend la chose encore plus explosive, encore plus intéressante. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai dit que ces matchs-là étaient intéressants à regarder parce que Christian McCaffrey, il nous a régalé et Deebo Samuel n'était pas là, donc ce qui va en plus pouvoir rajouter encore plus d'excitation à cette attaque là. Mais sur ce match là, en tout cas, on peut se dire que le mariage est parfait. Ouais,
18 courses et 8 réceptions pour Christian McCaffrey, qui a été ciblé 9 fois dans les airs. Donc clairement, il est heureux d'avoir ça, Kyle Shanahan. Ceci étant dit, ça fait 8 victoires en 9 matchs pour les 49ers contre les Rams, dans un stade acquis à la cause des 49ers, puisqu'on jouait à Los Angeles. Même Jimmy Garoppolo a fait un bon match. Il a 21 sur 25, 235 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Le truc, c'est que là, alors autant c'est hyper intéressant de débriefer pour McCaffrey, autant j'ai l'impression de te dire après, bah ouais, c'est un match contre les 49ers vont bien. C'est-à-dire que ça tourne en attaque, ça tourne en défense, Jimmy Garoppolo est dans un bon jour, et quand il joue comme ça, bah on parlait des Vikings tout à l'heure, c'est un peu le même genre d'équipe. C'est-à-dire que, alors pas le même profil d'équipe, mais je veux dire le même genre au sens où, bah oui, quand il joue comme ça, tu te dis oui, ils sont prétendants à minima, en tout cas en NFC.
Ah bah largement, quand on a ce niveau-là, d'un côté, enfin des deux côtés du terrain, parce que tu l'as dit, les Rams en deuxième mi-temps, ça a été compliqué, notamment parce que cette défense-là, elle a aussi élevé le ton. En effet, quand Garoppolo ne fait pas d'erreurs qui peuvent coûter le match, quand ils ont des joueurs et ils ont des playmakers qui sont dans les meilleures situations, George Kittle a marqué un touchdown, c'est vrai que c'est une équipe... qu'on n'a pas forcément envie de jouer non plus. Ce que j'ai bien aimé, la différence un petit peu... d'habitude, ce que j'ai bien aimé du côté des 49ers, on a l'habitude de dire que c'est une équipe qui est pas forcément à l'aise quand elle part de derrière, quand elle est menée. C'est une équipe qui aime bien prendre le jeu à son compte. Là, elle prend ce touchdown rapidement, en tout cas dans le premier quart-temps, tu l'as dit, ils sont à 7-0, ils sont même après, ils égalisent mais ils repassent à 14-7. Ils ont joué derrière relativement longtemps dans ce match-là, au moins une mi-temps, parce que je crois que la mi-temps il y a 14-10. Oui, et ils n'ont pas paniqué, Kyle Shanahan n'a pas paniqué, il n'a pas obligé Garoppolo à faire tout et n'importe quoi, il est resté concentré sur son plan de jeu qui a fonctionné. Alors c'est peut-être la confiance de se dire qu'in fine il va battre Sean McVay quoi qu'il arrive, je ne sais pas, mais, oui. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ça du côté des 49ers, et en effet quand ils jouent comme ça, c'est une équipe à surveiller.
En face, on a parlé de Christian McCaffrey. Les rumeurs disaient que les Rams étaient intéressés aussi par Christian McCaffrey et que grosso modo, ils avaient perdu les enchères hein, pour le faire venir. Est-ce que tu penses que vraiment ce qu'a regretté Sean McVay pendant ce match, c'est de dire il fallait que j'ai ce mec-là en fait, qui est de l'autre côté ? Parce que tu as l'impression que c'est ça qui leur manquait. Hein.
Ah bah c'est sûr que bon déjà ce mec-là, comme tu dis, je pense qu'il élève une attaque, il élève 80 à 90% des attaques NFL quand il est comme ça. Et qui plus est, l'attaque des Rams, parce que le jeu au sol, c'est très compliqué. Ça apporte une solution pour Stafford en sortie de backfield. Et puis on parle du schéma offensif de Kyle Shanahan. Sean McVay sait aussi plutôt bien faire et mettre ses playmakers dans des bonnes situations. Donc en effet, il a certainement dû dire déjà qu'en face ils font que nous battre, si en plus ils prennent un joueur qu'on voulait et qui nous montre un peu comment l'utiliser, ça peut être un peu compliqué. Après ils passent quand même à côté de jeux qui doivent être faits. Il y a ce fumble de McCaffrey qui est un peu chanceux, qui retombe dans les mains d'un de ses coéquipiers. Il y a cette interception de Ramsey qui est en train de blitzer et qui lève la main, il doit attraper le ballon, ça peut changer le match. Il y a des jeux qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas réussi à faire, et c'est souvent le cas contre les 49ers. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas évident quand on voit ça pour les Rams.
Après, ils se sont quand même fait sacrément manger en deuxième mi-temps. Ils gagnent 43 yards en 5 séries offensives en deuxième mi-temps. Les ajustements, je ne sais pas où ils sont passés, ou alors s'ils se sont endormis en se disant on en a marqué 14, mais c'est compliqué. Il n'y a pas de jeu au sol. Bon, ça on le savait, très bien. 21 courses, 56 yards, il n'y a que dalle. Mais 43 yards dans 5 séries offensives, quand t'as quand même Cooper Kupp, Allen Robinson, même Tyler Higbee, ils ont réussi à en tirer des choses par le passé. Là, t'as un Matthew Stafford qui termine à 187 yards. C'est inquiétant parce que je vois pas vraiment les axes de progrès. On a l'impression de chercher, j'ai l'impression que ça commence à ressembler aux Buccaneers, où on dit souvent « oui, mais ils ont la qualité, ou ils ont le coaching, etc. » Et ça va bien finir par se débloquer, mais... Le fait est que ça se débloque quand même pas vraiment. Stafford, il a un seul match à plus de 300 yards cette saison. Et ça tourne pas beaucoup, quoi.
Non, et puis en effet, y a des coups d'éclat de temps en temps, mais ils sont rares, premièrement. Et puis ensuite, ils sont noyés au milieu de quand même un niveau de jeu moyen depuis le début de la saison. Oui, il y a eu des victoires. Oui, ils en ont 3. Ils sont pas largués complètement, parce que j'ai l'impression que en NFC et même en NFL général, personne n'est largué complètement. Mais c'est vrai que c'est inquiétant, parce qu'on voit pas, comme tu l'as dit exactement, il y a pas de progression, il y a pas des choses qui nous font dire si ça va aller mieux. On voit ce qu'on a vu l'année dernière. Non, il y a toujours des stars, il y a toujours de très bons joueurs qui de temps en temps vont faire des coups d'éclat, mais pour l'instant il y a pas l'équipe qu'on a vue l'année dernière.
Les stats de Stafford sont inquiétantes, enfin en tout cas elles sont significatives, je trouve, sur le coup, parce que 7 touchdowns pour 8 interceptions en 8 matchs, quoi. pour un joueur de son standing, c'est quand même c'est quand même très très faible, quoi.
Ouais, et puis je regardais le calendrier là devant moi, il va falloir aller chercher les Seahawks. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont les jouer deux fois encore, de ce que je voyais ça. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Parce que c'est vrai que à l'heure actuelle, un match Seahawks Rams, est-ce qu'on pencherait pas plutôt vers les Seahawks?
Donc les Seahawks et les Niners, du coup, qui sont un match devant eux avec le tiebreaker.
Oui, parce qu'ils les ont battus deux fois du coup déjà. Oui. Donc oui, après il y a des matchs contre Tampa Bay. Alors c'est deux équipes malades, donc laquelle sera la moins malade? Je sais pas.
C'est ce que j'allais te dire. En plus, ce sera l'affiche de la semaine, hein, probablement dans l'émission preview, parce que mine de rien, c'est quand même les deux derniers champions.
Oui.
Et qui sont dans une forme plus qu'inquiétante. Plus qu'inquiétante. Les Rams sont sur 3 défaites en 4 matchs et les Buccaneers sont sur 3 défaites de suite. Donc là, on sera vraiment dans l'affiche, mais en mode un peu urgence, tu vois.
Ah oui, là,
on va mettre le générique d'urgence et on va essayer de voir comment on peut traiter les deux patients, parce que là, j'ai un peu de mal à voir. Les 49ers, c'est favori de la NFC West, du coup?
Après tout ce qu'on vient de dire sur les Seahawks,
mais on a aussi dit que les Niners, là, quand ils jouent comme ça, c'est quasiment ils peuvent taquiner n'importe qui.
Ouais, mais les Niners, ils jouent pas comme ça depuis le début de la saison. Il y a plus de constance du côté des Seahawks que du côté des Niners, hein. En tout cas, on voit plus de choses régulièrement semaine après semaine du côté de Seattle cette saison, en tout cas. Alors oui, les Niners, il y a un passif, il y a des saisons précédentes qui ont montré que ils sont capables de monter en puissance. Et il y a ces blessures aussi qui font que quand on voit des joueurs qui reviennent, alors Deebo Samuel n'était pas là, mais quand on voit des joueurs qui reviennent des deux côtés du terrain, Nick Bosa est un très bon joueur et il est toujours mieux sur le terrain qu'en dehors. Bon, il y a plein de choses comme ça, donc, mais je ne mettrai pas les 49ers favoris d'emblée comme ça. Pour moi, c'est presque une pièce en l'air actuellement.
C'est vrai que tu parlais d'irrégularité, ils ont quand même perdu contre les Bears, les Broncos et les Falcons cette année.
Ouais,
c'est vraiment la spéciale 49ers, hein, ce genre de truc.
Et pourtant, ils ont battu Minnesota. C'est les seuls à avoir battu Minnesota. C'est...
Non, ils n'ont pas joué Minnesota cette année.
Ils n'ont pas joué. J'ai la pré-saison. Ouais, ils les ont battus en pré-saison. C'est pour
ils
ça
ont
que.
Battu en pré-saison.
Ils les ont battus en pré-saison. Ouais.
Tu m'as dérouté. Ouais. Non, mais après, voilà, ils battent. Justement, ils ont battu les Seahawks une fois quand même. Deux fois les Rams, une fois les Panthers. Mais c'est vrai que ces défaites contre les Falcons, les Bears et les Broncos, elles font un peu tâche. Donc, tu as du mal à les situer. Bon, il reste quand même beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour ces équipes. Et c'est comme ça qu'on va boucler notre débrief des trois principales affiches. Évidemment, je vous rappelle que vous nous retrouvez demain pour les... Il reste quoi? Il reste 11 matchs à débriefer. Ce sera avec Raphaël Masmejean et Grégory Richard. Merci beaucoup, Lucas.
Toujours un plaisir.
C'est donc la fin de l'épisode 530. On se retrouve, je l'ai dit, demain pour le débrief, le surlendemain pour la preview. Enfin, vous avez l'habitude de tout ça, la draft, le rétro, etc., etc. Merci beaucoup tout le monde, merci beaucoup Lucas. Vous avez l'habitude pour les réseaux sociaux, le site c'est tdactu.com. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.